Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les malheurs de Sophie, le nouveau film de Christophe Honoré sort aujourd'hui en salle. L'occasion rêvée pour Franck Ferrand de nous parler d'enfance. Bonjour Franck.
Bonjour Ambline, bonjour à tous. La comtesse de Ségur nous a tous marqués, à des degrés divers. Son espiègle Sophie, ses petites filles modèles, nous plongent dans le quotidien des enfants d'autrefois. Vous connaissez les prénoms des petites filles modèles, hein, Camille et Madeleine? Eh bien justement, je voudrais dédier l'émission d'aujourd'hui à une petite Madeleine qui a vu le jour ce matin. Et je peux vous dire qu'à Europe 1, ça met tout le monde de très bonne humeur. Alors nous allons d'autant plus volontiers parler d'enfants cet après-midi que sont avec nous dans ce studio les commissaires d'une belle exposition proposée en ce moment au musée Marmottan, exposition de peinture française intitulée « L'art et l'enfant » où l'on découvre que dans les siècles passés comme aujourd'hui, certaines enfances étaient plus douces, plus confortables que d'autres.
On restera dans l'enfance puisque tout à l'heure à la fin de l'émission vous répondrez à la question d'Isabelle sur l'origine des poupées.
Eh oui, des poupées de porcelaine, de cire, de son. Vous aurez compris que cet après-midi, nous sommes un peu au jardin d'enfants.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Un peu avant 1930, une dame, une septuagénaire, marche dans la rue d'un pas paisible. On peut imaginer sur son visage un air humble, mais qui n'en est pas moins distingué. Elle rentre de la basilique Saint-Sernin, cette dame où elle est allée prier, et les passants qui la croisent sans trop la remarquer ne voient en elle qu'une vieille dame respectable comme il en existe tant et tant d'autres. On les étonnerait beaucoup, ces gens, en leur disant que la dame en question, sans le savoir, la plupart d'entre eux la connaissent bien. Pour certains, elle a même été une sorte d'amie, une camarade de jeu imaginaire et pourquoi pas un modèle. Mais oui, cette vieille dame a été dans son enfance l'une des petites filles qui devait inspirer un roman appelé à émouvoir des générations d'enfants, les petites filles modèles. Madeleine, c'est le prénom de notre vieille dame de Toulouse, n'est autre que la petite fille de la comtesse de Ségur, auteure célébrissime de romans pour la jeunesse et qui s'était inspirée de son entourage le plus proche pour conférer à ses écrits ce parfum d'enfance si particulier qui devait survivre très largement au Second Empire. C'est ainsi, la comtesse de Ségur a fait de Madeleine une des héroïnes de ses petites filles modèles. Quant au personnage principal des malheurs de Sophie, sans doute son plus grand succès, elle en avait trouvé l'idée dans sa propre enfance. En ouverture du roman, voici ce qu'elle écrit. Voici des histoires vraies d'une petite fille que grand-mère a beaucoup connue dans son enfance. Elle était colère, elle est devenue douce. Elle était gourmande, elle est devenue sobre. Elle était menteuse, elle est devenue sincère. Elle était voleuse, elle est devenue honnête. Enfin, elle était méchante, elle est devenue bonne. Grand-mère a tâché de faire de même. Faites comme elle, mes chers petits-enfants, cela vous sera facile, à vous qui n'avez pas tous les défauts de Sophie. Tout de suite, le ton est donné. Dans ce roman, un roman qui paraît en 1858, la comtesse de Ségur entraîne ses jeunes lecteurs dans un univers où le récit des bêtises enfantines, des sottises, comme on disait à l'époque, où ce récit est le prétexte à de forts enseignements moraux. Sous sa plume, chacun est projeté dans les coulisses familiales de la haute société du Second Empire, un monde certes privilégié, mais au fond plus dur qu'il n'y paraît, un monde de drames, d'injustices et de rigidité. La morale y est évidente. Quand Sophie tue un petit poisson rouge, quand elle détruit une poupée, vous savez qu'elle la colle au soleil et les yeux lui finissent dans le milieu du crâne à la pauvre poupée, quand elle met ses propres pieds dans la chaux vive, elle se confronte aux pénibles conséquences de ses actes et par là même aux contraintes de l'existence. En s'inspirant de sa propre enfance, la comtesse de Ségur ravive en vérité des souvenirs très ambivalent, car ce sont des souvenirs teintés d'un certain exotisme. Malgré son grand nom français, notre auteur vient de loin. Elle est née Sophie Rostopchine, elle est née à Saint-Pétersbourg en 1799. Son père était un noble russe qui, disait-on, descendait de Gengis Khan, en tout cas lui le disait volontiers. La petite a grandi pour l'essentiel dans le vaste domaine de Voronovo, dans la région de Moscou, et c'est une descendante de Madame de Ségur, citée par Claude Pasteur, cette Arlette de Pitré qui raconte. C'était une extraordinaire résidence, dit-elle, résidence de 24 000 hectares de forêt peuplée d'ours et de loups, qui venaient, les soirs d'hiver, hurler sous les fenêtres du château. Voronovo était un véritable petit état, abritant 1700 personnes, toutes dépendantes de Rostopchine. À Voronovo, l'atmosphère est assez dure. Les serviteurs sont parfois punis au fouet, les rapports entre personnes sont très hiérarchisés. Quant à l'éducation, elle est solide. Il faut savoir que dès ses plus jeunes années, la petite Sophie va maîtriser quatre langues, dont le français, bien entendu, qui est la langue de la bonne société russe. Elle subit aussi des principes assez stricts. La mère de Sophie impose à ses enfants des habits fins, légers, même par grand ou très grand froid. Elle les fait dormir dans des lits très inconfortables. Bref, l'idée, c'est de fortifier les enfants. Vous savez, c'était comme ça, à l'époque, les fortifier au physique comme au moral. Sur le chapitre de l'alimentation, on suit un peu la même logique, les enfants doivent se contenter de peu, peut-être même de trop peu. Ghislain de Disbach raconte, je le cite, « Ainsi Sophie est-elle amenée à voler le pain des chevaux, pourtant peu digeste, et à laper l'eau du chien, épisodes qui figureront parmi les plus célèbres des malheurs de Sophie. Elle a également des indigestions de fruits pour avoir voulu profiter d'une occasion trop tentante, ou de crème après en avoir avalé trop goulûment. La petite Sophie, c'est le moins qu'on puisse dire, est dégourdie. Elle a un caractère bien trempé, elle a un caractère qui nous a tous marqués d'une manière ou d'une autre. Alors je ne sais pas si on parle de Sophie Rostopchine ou de la petite Sophie des malheurs, mais en tout cas, elle possède une imagination absolument débordante, de quoi parfois lui donner des idées qui frisent l'absurde. Elle cherche sans doute ainsi à exister face aux grandes personnes, face à sa mère, à lui résister par toutes sortes de petites bêtises. Et là encore, on décèle certains ressorts de l'écriture à venir de la comtesse de Ségur. Notons pour la petite histoire, parce que c'est quand même une coïncidence assez amusante, que le père de Sophie Rostopchine, est gouverneur de Moscou au moment où Napoléon s'approche de la ville en 1812. Et c'est donc lui qui se serait résolu à brûler la ville de Moscou plutôt que de la céder intact à ces Français qu'on détestait là-bas. La vie de Sophie enfant, puis adolescente, cette vie est marquée par la conversion de sa mère au catholicisme et puis, plus tard naturellement, par sa venue en France. Ces deux événements jouent un rôle dans le mariage de Sophie Rostopchine, devenue donc une jeune fille. Elle va épouser un grand seigneur français, le comte de Ségur, s'il vous plaît, en 1819. On peut dire qu'à ce moment-là, pour elle, l'heure vient de fonder une famille, famille nombreuse, qui sera une vraie source d'inspiration. Mais avant cela, bien du temps va passer.
Chantons les jolis contes d'avant-guerre qui avaient bercé nos grands-mamans. J'ai retrouvé un beau livre d'hier que j'ai parcouru en m'amusant. Petite fille autrefois qui faisait des bêtises, on ne t'oubliera pas. Des bottillons, ta robe de dentelle, et bien aujourd'hui les revoilà. Les malheurs de Sophie, les bonheurs de Sophie. Chante dans la maison, dans les champs, dans les bois. Chaque nuit quand elle désobéit. Les malheurs de Sophie, les malheurs de Sophie, les malheurs de Sophie, les malheurs de Sophie. On va prendre le cœur quand elle rit, quand elle pleure au jardin du bonheur. Un jour ton papa venait de t'offrir, je crois là, le plus beau des cadeaux. C'était une belle poupée de cirque au soleil, tu mis pour qu'elle échoue.
Chantal Goya sur Europe 1 avec les malheurs de Sophie. On vous retrouve Franck Ferrand pour la suite de votre récit sur la comtesse de Ségur et sur ses enfants qui l'ont inspirée.
Vous savez, cette comtesse de Ségur, qui est devenue un des auteurs les plus célèbres de notre littérature, a vu sa vocation se dessiner sur le tard. Elle est déjà plusieurs fois grand-mère au moment de la publication de ses romans les plus célèbres, Les petites filles modèles, en 1857, donc. 57, ça veut dire qu'elle a elle-même 58 ans, et Les malheurs de Sophie l'année suivante. Son personnage de Sophie fille qu'on retrouve dans les deux romans est nourrie, je viens de le dire, de tous les souvenirs d'enfance de Sophie Rostopchine en Russie. Les deux petites filles modèles, quant à elles, empruntent beaucoup aux propres petites filles de la comtesse, à commencer par les prénoms Camille et Madeleine. Là encore, la comtesse de Ségur est très claire dès le préambule de son roman, je la cite. Mes petites filles modèles ne sont pas une création. Elles existent bien réellement, ce sont des portraits. La preuve en est dans leurs imperfections même. Elles ont des défauts, des ombres légères qui font ressortir le charme du portrait et attestent l'existence du modèle. Camille et Madeleine sont une réalité dont on peut s'assurer toute personne qui connaît l'auteur. Et oui, elles sont devenues très vite très célèbres, les petites filles de la comtesse de Ségur. Alors, il faut que nous fassions peut-être plus ample connaissance avec elle. Au moment où la comtesse de Ségur achève les petites filles modèles, Camille et Madeleine n'ont même pas 10 ans. Elles appartiennent donc, je vous l'ai dit, à la meilleure société. Leur père, Paul de Malaret, est diplomate. Il descend d'une grande lignée toulousaine. Quant à leur mère, Nathalie, la fille de la comtesse de Ségur, elle appartient carrément aux plus hautes sphères. Sophie Askenoff le raconte. Nathalie était dame d'honneur de l'impératrice Eugénie, ce qui lui permit de figurer sur le célèbre portrait de Winterhalter aux côtés des autres dames d'honneur de la cour, nous dit-elle. Louis, le petit frère de Camille et Madeleine, n'était rien moins que filleul de l'empereur et de l'impératrice. Il faut vous dire que des filleuls de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, il y en a eu des centaines, mais enfin, ça signait quand même l'appartenance à un milieu très évolué. Les deux petites filles vont donc avoir le privilège de partager parfois les distractions d'un petit enfant qui est à peine plus âgé qu'elle, le prince impérial en personne. Le petit Louis-Napoléon, dont on pense à l'époque qu'il sera le futur empereur Napoléon IV. Hein, il est l'héritier de la couronne impériale. Il arrive à Camille et à Madeleine de suivre par ailleurs leur père dans de longues missions à l'étranger, mais à leurs yeux d'enfants, c'est l'été sans doute qui est le temps fort de l'année. Elles le passent chacun de ces étés dans le sud de la Normandie, dans le charmant château des Nouettes, où leur grand-mère les reçoit, et ça c'est la saison des éclats de rire, des jeux entre enfants, etc. C'est la saison bénie hein, des vacances enfantines, des vacances familiales qui fournissent à la comtesse de Ségur l'essentiel de son atmosphère, de sa matière. Elle observe ses petits-enfants en train de s'amuser, elle les écoute, deviser entre eux, parfois elle se cache un peu pour les entendre parler, elle est attentive à leur joie, elle est attentive à leur drame aussi, bref, elle les regarde grandir et elle en tire le suc de ses romans. Camille et Madeleine de Malaret ont chacune un caractère bien à elles. L'une est allègre, enjouée, l'autre, vous l'aurez compris, beaucoup plus calme, Madeleine. Mais toutes deux sont éduquées avec attention et selon les exigences de la bonne société de l'époque. Ça signifie un certain cadre moral, une façon d'envisager la société qui ressemble probablement beaucoup à celle que l'on retrouve dans le livre. Et là encore, c'est Sophie Askenoff qui précise, je la cite, « Heureusement, les punitions faisaient exception au château. Les fillettes étaient par trop sages et dévouées. Elles étaient toujours prêtes à faire acte de charité, comme le leur avaient enseigné leur mère et grand-mère. On retrouve là la marque du paternalisme social caractéristique de cette haute société du XIXe siècle. Madeleine, surtout, était aussi vive à offrir son argent, ses prières ou toute autre chose que Camille à courir au milieu des prés et des arbres normands. » La comtesse de Ségur est une grand-mère très attentive, très aimante incontestablement, mais qui n'en est pas moins nourrie de grands principes. Ce n'est pas une grand-mère facile. Elle est présente, elle est généreuse, mais elle sait éduquer ses petits-enfants. On la retrouve sans doute en partie dans le personnage de la mère des petites filles du roman, Madame de Fleurville, qui est un petit peu une version idéalisée de la comtesse de Ségur, juste, solide, dévouée, disons-le, elle a été probablement inspirée par ses propres malheurs et par sa propre vie. Ghislain de Disbach le souligne, Madame de Fleurville est devenue l'incarnation de Madame de Ségur, non telle qu'elle est réellement, mais comme elle se voudrait, veuve et riche, sans les infidélités d'un époux ni les soucis d'argent. L'idéalisation de l'univers de la comtesse de Ségur n'en fait pas non plus un monde sans aspérité. Les petites filles modèles abordent, comme les malheurs de Sophie, un certain nombre de thèmes qui sont durs pour des enfants. Les accidents, y compris les accidents mortels, vous savez bien sûr. La violence, l'iniquité, d'une façon plus générale, la difficulté du monde environnant. Simplement, dans cet univers, les jeunes héros bénéficient en général de la bulle de protection offerte par la bonne Madame de Fleurville. Mais, contrairement à leurs alter-ego du roman, Camille et Madeleine de Malaret vont devoir vieillir. Et oui, c'est réservé aux héroïnes de roman de garder 10 ou 11 ans pour les siècles et les siècles, leurs beaux étés enfantins. Sous l'œil de leur grand-mère, bientôt ne seront plus que de vieux souvenirs.
Vous écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et vous pouvez à tout moment nous envoyer vos messages et vos questions. Nous vous attendons sur la page Facebook de l'émission par mail europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand. Vous continuerez de nous parler de la comtesse de Ségur, mais aussi de Sophie, Camille, Madeleine et les autres.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Elle est l'auteur de certains des plus grands classiques de la littérature jeunesse. Franck Ferrand, vous nous parlez de la comtesse de Ségur et de ses enfants modèles qui grandissent.
Eh oui, alors les enfants grandissent et les livres se succèdent chez la comtesse de Ségur. Après la parution des Petites filles modèles et des Malheurs de Sophie, on voit les parutions continuer à se succéder à un rythme soutenu. Les vacances, c'est le troisième volet hein, après les Petites filles modèles et les Malheurs de Sophie. Donc ça, c'est 1859, puis Les Mémoires d'un âne dès l'année suivante, L'Auberge de l'Ange Gardien en 1863 ou encore Un bon petit diable en 1865. On est vraiment dans le cœur même du Second Empire. Le temps passe, Camille et Madeleine, les anciens modèles de Madame de Ségur, sortent doucement de l'enfance et pour cette jeune fille bien née, vient le moment de songer tout naturellement à s'établir, autant dire à cette époque, à faire un bon mariage. C'est ainsi qu'au printemps 1868, l'aînée, Camille, va épouser un certain Léon Ladureau de Belot, qui est un petit peu plus âgé qu'elle. Alors, un petit garçon va naître très vite, qu'on appelle Paul, comme le père, comme le cousin du roman, bien entendu. Et il semble que l'union devienne rapidement assez malheureuse. Sophie Askenhoff le raconte. Léon de Belot, jeune aristocrate parvenu qui se parait du titre de marquis, était un homme léger qui aurait, dit-on, quelque peu ruiné sa femme et n'aurait pas été d'une fidélité à toute épreuve. Camille retrouva heureusement refuge et affection auprès de sa grand-mère tant aimée, comme en témoigne leur correspondance. La bonne grand-mère était toujours très attentionnée auprès de sa petite fille, d'autant que celle-ci était malade. Elle souffrait depuis longtemps d'une affection respiratoire. Seulement, les années ont passé, la comtesse de Ségur voit elle aussi décliner sa santé. Et en 1873, alors c'est toujours facile, hein, comme elle est née en 1799, elle a 74 ans. Chaque mois, ou presque, apporte son lot de misère. Et l'été, surtout, se révèle difficile à vivre pour elle. À la fin du mois de décembre, Sophie se sent assez mal pour que son fils Gaston, devenu monseigneur de Ségur, lui donne les derniers sacrements. Et doucement, la comtesse de Ségur, après plusieurs semaines de grande faiblesse, va mourir chez elle, à Paris. Je cite de nouveau Guilain de Disbach. « Une dernière attaque l'emporte à l'aube du 9 février 1874. On revêt son corps, où la gangrène a progressé, de la robe des tertiaires de Saint-François. » Le clan de Ségur a perdu son artiste d'une certaine manière, en tout cas sa romancière. Pour la fragile Camille, la perte est, comme on peut l'imaginer, particulièrement cruelle et elle-même va disparaître 9 ans plus tard, presque jour pour jour, vaincue par la tuberculose. Elle aura passé ces 9 années vraiment dans le souvenir, dans la mémoire de sa grand-mère. Quant à son fils, Paul, il mourra seulement quelques années après, fauché au sortir de l'adolescence. Madeleine, c'est l'autre petite fille modèle, bien entendu. Madeleine va vivre, quant à elle, avec sa mère, Nathalie de Malrel, l'ancienne dame d'honneur de l'impératrice Eugénie. Mais, évidemment, évidemment, à cette époque, l'Empire a depuis longtemps cédé la place à la République et le monde décrit par la comtesse de Ségur est en train de disparaître. On peut dire qu'il va être définitivement emporté par la Grande Guerre, par la guerre de 1914. La mère et la fille se sont installées ensemble à Toulouse dans une atmosphère de routine, de douceur provinciale, de piété. Contrairement à sa sœur, Madeleine ne s'est jamais mariée. La prière, la charité, les dévotions tiennent une grande place dans sa vie et c'est au terme d'une existence dénuée d'aspérité que la petite fille modèle, trop sage peut-être, disons-le, trop obéissante, c'est au terme de cette longue existence sans surprise qu'elle va disparaître à son tour au début de l'automne 1930, âgée de 80 ans. Sophie Askenov précise, elle avait vu bien des années s'écouler depuis le temps des petites filles modèles. Se souvenait-elle encore, d'ailleurs, de son enfance, du prince impérial, de sa voiture attelée de chèvres, des farces du bon petit diable qui lui était dédiée, ou bien de ce De Profundis qu'elle avait murmuré au lit de mort de sa grand-mère, la comtesse de Ségur? Après 50 ans de séparation, Madeleine rejoignait enfin sa chère petite Camille, qu'elle aimait tant. Bonjour messieurs, je reçois Jacques Gélis et Dominique Lobstein qui vont nous parler de cette exposition en ce moment au musée Marmottan, une exposition consacrée aux chefs-d'œuvre de la peinture enfantine si l'on peut dire. Alors ce ne sont pas des enfants qui sont au chevalet, ce sont des enfants qui sont les modèles de tous ces tableaux. Nous allons parler de l'enfance privilégiée du 19e siècle, mais pas seulement, car d'autres siècles sont au cœur de cette exposition et évidemment d'autres milieux aussi. Il n'y a pas que l'enfance dorée des petites filles modèles.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La comtesse de Ségur et les enfants qui l'ont inspirée sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, l'historien Jacques Gélis et l'historien d'art Dominique Lobstein. Ils sont tous les deux commissaires avec Marianne Mathieu de l'exposition L'art et l'enfant, chef-d'œuvre de la peinture française au musée Marmottan, exposition Europe 1.
Et oui, j'ai visité cette exposition il y a quelques jours avec Lorena Martin. C'est un vrai bonheur car on est plongé effectivement dans un monde d'enfance dont le moins qu'on peut dire, Dominique Lobstein, est que ça n'est pas tout à fait l'enfance de la comtesse de Ségur. Il y a une partie des tableaux qui parle de cette enfance privilégiée du 19e siècle, mais d'abord on commence beaucoup plus tôt dans la chronologie, et puis surtout on parle de tous les milieux.
Absolument. L'exposition débute avec une sculpture du 14e siècle, où vraiment l'enfant apparaît dans la sculpture. C'est une pièce qui a été prêtée par le musée de Cluny.
C'est une merveille.
Qui est une œuvre magnifique, je vous l'accorde. Et on va dérouler comme ça l'histoire de l'enfance jusqu'au milieu du XXe siècle. Et avec une grosse partie sur le XIXe siècle, le musée Marmottan-Monet héberge quand même une des plus grandes collections de peintures impressionnistes. Donc ça a été un axe fort de la recherche. Mais on n'a pas seulement montré l'enfance dorée des impressionnistes, mais aussi l'enfance des réalistes et des naturalistes, ceux qui ont vraiment pris leur sujet auprès des plus humbles et des plus modestes.
Alors, la comtesse de Ségur reste une référence dominante dès qu'on parle des enfants d'autrefois, d'une façon générale. Effectivement, elle a su décrire non seulement les jeux et les occupations des enfants, mais elle a décrit aussi leurs rêves. Elle a, avec un naturel confondant, saisi leur spontanéité. Elle a restitué leur dialogue. Tout ça est magnifique. Est-ce qu'on a dans l'exposition des toiles qui font songer à ça? Moi, j'en ai deux ou trois à l'esprit quand même, chez les impressionnistes notamment là, en fait.
Chez les impressionnistes, voilà, parce que tout d'un coup on voit des enfants avec des livres illustrés.
C'est ça.
Et il y a une part du rêve qui rentre, mais sinon le principe de la peinture est beaucoup plus rigoureux. Il n'y a pas d'échappatoire, il y a vraiment une représentation et c'est tout. Mais bien sûr, vous pensez au tableau de Renoir, enfants de Martial Caillebotte. Et alors là, on rentre vraiment, même la tenue, la coiffure des enfants est tellement proche de ce qu'on imagine dans les romans de la comtesse de Ségur que effectivement là on touche du doigt la comtesse de Ségur.
C'est d'ailleurs amusant puisque la comtesse de Ségur écrit tout ça au milieu des années 1850 et les tableaux dont nous parlons sont de 20 ans plus tardifs, enfin 10 ans, non,
40 ans. Les années 90 quand Renoir,
mais ça n'a pas tellement évolué, les petites bottines, les robes à cerceaux, les
Absolument. Les costumes marins pour les enfants, etc.
Oui.
Alors, nous allons peut-être repartir un peu en arrière et prendre l'enfance au milieu ou même au début du XVIIIe siècle, lorsqu'elle se distingue, si je puis dire, et lorsqu'elle devient un sujet à part entière. Est-ce que, en dehors de l'enfant Jésus, et vous nous avez parlé de cette statue du XIVe siècle, est-ce que l'enfant a été un modèle pour les artistes avant le XVIIe, XVIIIe siècle, Jacques Gélis?
Il est seulement un modèle pour les classes aisées, pour les milieux princiers aristocratiques. Tout au long du XVIIe siècle, c'est le dauphin de France, dans cette monarchie en plus des Bourbons, qui a tellement de problèmes avec les héritiers, tout simplement parce que les pères disparaissent trop tôt. Il faut afficher en fait le dauphin de manière à bien montrer qu'il est l'héritier. Il y a derrière ces peintures, au fond, une tonalité très politique.
Mais bien sûr, et d'ailleurs on voit dans les toiles qui sont exposées, on voit des enfants qui sont considérés littéralement comme des adultes en miniature. Hein. Les petits dauphins dont vous parlez sont chargés de tous les attributs de leur charge. Ils portent le grand cordon du Saint-Esprit en sautoir. Enfin, ils ont déjà quasiment l'allure et l'attitude de petits adultes.
Bah, du moins, on les figure de cette manière-là.
Oui.
Ce sont quand même des enfants un peu particuliers, qui vivent des moments parfois difficiles. Je pense au jeune Louis XIV, par exemple, au moment de la Fronde. Mais ils ont quand même aussi leur part d'enfance. Ce que l'on veut montrer, c'est quand même le dauphin officiel.
Alors, on a dans cette peinture d'enfant, bien entendu, la représentation à l'infini de l'enfant Jésus. Ça, c'est l'enfant par excellence, en quelque sorte. On a tous ces enfants royaux et princiers. On a aussi, dans des portraits de famille, dans des portraits plus généraux, ces enfants qui sont censés montrer la perpétuation de la lignée aussi. Ils sont l'avenir, d'une certaine manière.
Mais ça, c'est fondamental, parce que si on veut comprendre les évolutions ultérieures, il faut partir de là. C'est-à-dire que l'enfant, il appartient au moins autant à ses ancêtres qu'à ses parents. Et donc, il est en fait le rejeton du tronc familial. C'est bien comme cela qu'il faut l'imaginer, pour comprendre ensuite les évolutions qui se sont produites.
Oui, ces évolutions, elles vont apparaître au moment où Rousseau, en quelque sorte, modifie l'éducation et modifie la conscience qu'on a de l'enfance.
Peut-être un peu plus tôt, quand même. Peut-être un peu plus tôt, parce que dès le milieu du XVIIIe, on commence déjà à voir apparaître des signes de ce que l'on peut considérer, au fond, comme l'origine de l'enfant contemporain. De la même façon que l'attitude des parents change. Les parents ne marquaient pas beaucoup apparemment de sentiments à l'égard de leurs enfants. Il y a des marques de la pudeur qu'on a totalement oubliées. Ça ne se faisait pas, par exemple, pour un père d'embrasser ses enfants, et à plus forte raison, ses filles.
Oui. Est-ce que les premiers tableaux qui représentent des pères, des mères et leurs enfants sont liés à cette nouvelle conception de l'éducation, justement, de ce rapport à l'enfance?
Oui, il y a cette volonté, en effet, de montrer que l'enfant est une catégorie à part, désormais. Ce qui n'était pas le cas précédemment, puisqu'il était simplement un adulte, au fond, en devenir. Et donc, il n'y avait pas de catégorie enfant, de spécificité enfant.
Et il y a aussi une catégorie qui est en train de s'imposer peu à peu pendant tout le cours du XVIIIe siècle, c'est la bourgeoisie. Il est certain que dans l'aristocratie, l'enfant est considéré, nous le disions tout à l'heure, comme une sorte de petit adulte. D'ailleurs, on l'habille dès l'âge de 7 ans comme un adulte. Il parle, il s'exprime. Il n'est que de voir les travaux de rhétorique des jeunes princes. Il s'exprime exactement comme un adulte, etc. Évidemment, dans la bourgeoisie, l'enfant a une autre place, un autre statut. On voit ça avec les merveilleux enfants de Chardin, par exemple, hein, qui sont dans l'exposition.
Oui, mais c'est-à-dire que les enfants de la bourgeoisie ont quand même beaucoup plus de liberté. Les parents peuvent leur consacrer davantage de temps. L'enfant royal, l'enfant princier, est un enfant qui est, la plupart du temps, pris par ses devoirs de futur souverain. Donc la bourgeoisie montre des marques d'affection, une attitude différente en envoyant l'enfant à l'école, en le faisant former, chose tout à fait nouvelle par rapport à ce qui se passait antérieurement.
Est-ce que l'enfant devient en quelque sorte, dans le cours du XVIIIe siècle, un sujet de peinture à part entière? Est-ce que c'est un genre ou un sous-genre, d'une certaine manière?
Il devient un vrai sujet.
Oui, voilà.
Il a le droit à son portrait,
c'est ça,
comme
voilà.
Les adultes.
Oui.
Tout d'un coup, on lui accorde le droit d'être représenté.
Et quels exemples pouvons-nous donner de cela?
Vous avez l'enfant au Toton, de Chardin qui est présent dans l'exposition, qui est vraiment un résumé de toute une époque.
Et en vis-à-vis dans l'exposition, il y a un autre Chardin, à mon avis, encore plus étonnant parce qu'on ne le connaissait. Enfin, moi, je ne le connaissais pas, celui-là.
Un Chardin qui a été prêté par le musée de Houston, donc forcément un peu moins connu, qui s'appelle La Bonne Éducation. Et La Bonne Éducation, c'est une mère et sa fille. La mère a arrêté son ouvrage, hein, il y a tout ce qu'il faut pour continuer la formation de sa fille, et elle lui fait réciter la Bible. Voilà, les genres sont définis, le petit garçon va étudier et jouer, la petite fille va lire la Bible et tricoter.
Oui, ça va se poursuivre jusque très tard dans le 19e siècle, voilà. Il faut le dire.
Et on a essayé de parsemer justement la suite de l'exposition de ces références à la différenciation des fonctions selon qu'on est un petit garçon ou une petite fille.
Qu'est-ce que cette peinture et qu'est-ce que cet art nous apprennent de la vie des enfants de l'époque ? Est-ce qu'on est coincé dans une catégorie, dans un genre, ou est-ce qu'il y a quand même une dimension quasi documentaire de cette peinture ? Est-ce qu'on apprend des choses ?
Ah oui, 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 oui. Il y a ces généralités qui sont vraiment, selon qu'on est un petit garçon ou une petite fille, on fait telle ou telle chose. Mais justement, dans la représentation, après, on voit jusqu'où peuvent aller l'évolution pour chacun des enfants. Un peu plus loin, vous avez des tableaux de Giraudet, et on voit justement que tout d'un coup, le petit garçon va s'intéresser à l'histoire. Donc c'est quelque chose de nouveau par rapport au roman qu'on peut avoir chez Chardin. Là, tout d'un coup, on va rentrer dans une autre catégorie.
Moi, ce que je trouve assez étonnant, Jacques Gélis, c'est l'individualisation, si je puis dire, de l'enfant, qui n'est plus seulement considéré comme une catégorie, hein, comme un enfant Dieu ou comme un enfant roi, mais qui devient une petite personne à part entière, indépendante, qui peut avoir son propre portrait, pas seulement au milieu d'une fratrie ou d'une descendance. C'est-à-dire que l'enfant acquiert une forme de légitimité, d'une certaine façon.
Ah oui, l'enfant d'abord parce que il connaît ses parents. Il peut connaître ses parents jusqu'à l'âge adulte. Ça, c'est une nouveauté. Il peut même connaître ses grands-parents, chose qui était quand même beaucoup plus rare autrefois.
Oui, qui pouvait exister, mais était rare.
Qui était beaucoup plus rare. Et ça contribue tout de même beaucoup à...
C'est la baisse de la mortalité, d'une façon générale, tout simplement.
Oui, oui. Il ne faut pas oublier quand même qu'un enfant sur quatre mourait avant un an.
Et oui.
Un deuxième enfant mourait avant 20 ans autrefois. Et que la révolution démographique qui apparaît à partir du milieu du 18e siècle va changer complètement la donne. Enfin, progressivement, bien sûr.
On a eu, et je pense au Murillo, etc., on a eu quand même assez tôt la représentation d'une enfance très pauvre, misérable. Mais là encore, est-ce que c'est l'enfant qui est représenté en priorité ou est-ce que c'est la condition de mendiant prise à travers celle de l'enfant ?
Ça n'est pas un enfant en particulier. Encore qu'au 18e, on pourrait avoir,
ça commence, oui.
On pourrait avoir ce genre de représentation, mais c'est plus allégorique. Alors que tout d'un coup, ça va être beaucoup plus un jugement de société, ça va rentrer dans des courants de pensée qui vont favoriser une législation nouvelle sur les enfants.
Alors, les frères Lenain, bien entendu, un certain nombre de peintres se sont intéressés au monde paysan. Il ne faut pas oublier que quatre enfants sur cinq sous l'Ancien Régime sont des paysans, même un peu plus que ça. Et paradoxalement, ce ne sont pas ceux qu'on voit sur les toiles, généralement, ou peu.
Non, non, le paysan est pauvre. On peint pour des bourgeois, on peint pour des aristocrates, donc on ne va pas montrer des enfants pauvres. Donc c'est une espèce de paysannerie revue et améliorée, donc que les Lenain vont peindre pour les amateurs.
Alors, on voit très bien se dessiner diverses catégories d'enfance, en quelque sorte. Nous allons venir dans un instant aux enfants pauvres du 19e siècle, bien entendu. Est-ce que d'une certaine manière, vous avez voulu, à travers cette exposition, montrer, alors je ne sais pas auquel des deux m'adresser, peut-être à vous, Jacques Gélis, est-ce que vous avez voulu montrer la très grande disparité des enfances, justement, entre l'enfance misérable du petit peuple et une enfance plus raffinée, à mesure qu'on monte dans la hiérarchie?
Oui, il y avait une double volonté. Il y avait à la fois cette volonté d'inscrire l'enfant dans une chronologie longue.
Et dans une individuation progressive.
Et en même temps, une individuation progressive. Et en même temps, de bien montrer qu'il y avait à toute époque, non pas un, mais des enfants. Et c'est particulièrement vrai, par exemple, pour le 18e, lorsque on voit progresser l'instruction, et où de plus en plus souvent, l'enfant des milieux bourgeois, par exemple, est figuré avec un livre. C'est quand même tout à fait significatif, cette volonté, qu'il s'agisse d'un livre d'images ou que l'on feuillette.
Peu importe, mais enfin, il y a cette volonté d'éduquer, justement.
Oui, et en même temps, ces enfants, avec un certain, au moins deux tableaux, qui montrent l'enfant, certes à l'étude, mais en même temps avec les jouets à proximité, soit caché dans un tiroir, soit le bilboquet dans sa poche. Donc ce double visage de l'enfant qui est à la fois désireux de s'instruire, ou que l'on veut instruire, et en même temps désireux de jouer.
Nous allons voir bientôt la peinture se faire instrument politique. C'est une peinture déclarative, c'est même une peinture qui peut être révolutionnaire. Nous y venons dans un instant à travers un certain nombre de toiles qui, moi, m'ont beaucoup surpris pendant ma visite et je pense vont marquer vos visiteurs.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Sur Europe 1 avec un bon petit diable. L'enfance en peinture est au cœur de l'histoire. Et vous recevez Franck Ferrand, l'historien d'art Dominique Lobstein et l'historien Jacques Gélis, tous deux commissaires avec Marianne Mathieu de l'exposition L'art et l'enfant, chef-d'œuvre de la peinture française au musée Marmottan. C'est jusqu'au 3 juillet et c'est avec Europe 1.
Vous aviez un choix infini ou tous les grands tableaux sont là dans cette exposition du musée Marmottan, Dominique Lobstein?
Non, le choix était bien plus large. On avait déjà restreint en ne s'intéressant qu'à la France. Mmh. Et encore, en ne parlant que de la France, on a vraiment fait une sélection drastique.
Alors, puisqu'on entendait Gérard Lenormand chanter le bon petit diable de la comtesse de Ségur, revenons quelques instants sur les jeux d'enfants, sur cette enfance nimbée, ouatée, qui est celle de Renoir, justement, hein, qui sont les propres enfants, d'ailleurs, des peintres de l'époque que l'on voit sur les toiles.
Absolument, oui. Donc là, ce sont les enfants du frère de Gustave Caillebotte.
C'est ça.
Mais un peu plus loin, sous le pinceau de Berthe Morisot, vous avez sa fille, donc qui était aussi la nièce d'Édouard Manet, un peu plus loin, vous voyez le fils de Monet et la nourrice qui s'occupe de lui. Enfin, voilà, c'est un monde où on choisit l'enfant.
Oui, et où l'enfant a l'air parfaitement protégé, parfaitement heureux. Il y a ce tableau connu, hein, Mademoiselle Fleury en costume algérien, là, cette petite fille, on voit qu'elle est en train de préparer un jeu, tout simplement. Jeu théâtral, elle est déguisée. Voilà, donc ça, c'est l'enfance solaire, lumineuse, qui fait beaucoup penser à celle que nous évoquions pour commencer cette émission, à celle de la comtesse de Ségur. Et puis, exactement à la même époque, alors là, c'est une gifle, si je puis dire, parce qu'on ne s'y attend pas vraiment quand on est en train de visiter l'exposition, arrivent tous ces enfants. Alors d'abord, ces enfants utilisés, si je puis dire, qui sont déjà élevés dans l'idée d'une revanche militaire. Il y a une forme de militarisation de l'enfance. Ça, c'est étonnant, ça, déjà.
On a voulu, comme un pivot dans l'exposition, montrer quelques tableaux qui parlent des enfants et de la guerre.
C'est ça.
Parce que c'est un vrai sujet.
Oui.
Les historiens peuvent en parler encore mieux que moi. C'est vraiment un pivot de la pensée, de la politique, qui va être exploité par les peintres abondamment.
Une fois de plus, quand on dit l'enfant et la guerre, c'est l'enfant considéré comme l'élément du futur, d'un avenir qu'on va pouvoir maîtriser, qu'on va pouvoir envoyer tout simplement au combat.
Oui, mais ça ne va venir que vraiment dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que là, il y a un changement qui apparaît avec le rôle de l'État, qui entend désormais un peu plus contrôler la population, avec toujours cette idée qu'un pays n'est fort que du nombre de ses sujets. Mm-hmm. Donc, il faut les choyer tout particulièrement. Et l'enfant, c'est le futur soldat, c'est le futur laboureur, enfin, c'est le futur ouvrier. Donc, l'enfant devient on investit dans l'enfant. Ça devient une valeur sûre pour la société.
Il y a cette toile que je n'arrive pas... Ah si, j'allais dire que je n'arrive pas à retrouver. Je l'ai là sous les yeux. Cette toile de Henri-Jules-Jean Geoffroy, qui s'appelle justement « Les étrennes de la guerre ». On est en pleine Première Guerre mondiale. C'est un moment assez extraordinaire parce qu'on voit des enfants qui sont complètement dans un contexte de revanche et en quelque sorte de mobilisation nationale.
dès 1882, avec les lois de Ferry sur l'enseignement, on crée les bataillons scolaires. Donc les petits garçons, à partir de 7 ans, s'entraînent à la guerre. Puis ces bataillons, ils vont disparaître officiellement, officieusement peut-être pas, mais officiellement dans les années 1890. Mais les enfants restent marqués par ça. Et en 1916, en Corse, il y a une vraie passion pour tout ce qui tourne autour de la guerre.
Alors, nous arrivons à ce moment, je disais, un peu étonnant, ce tournant de l'exposition. C'est le réalisme extraordinaire d'un certain nombre de représentations. Je pense donc à cette toile qui s'intitule « Un martyr, le marchand de violettes ». On est là en 1885. Et c'est un enfant qui est tout simplement exsangue, quasiment en train de mourir de faim avec sa petite boîte de violettes autour du cou. C'est assez effrayant, là, pour le coup.
C'est assez terrible. Oui. C'est assez terrible. Surtout que s'il est là, c'est parce qu'on est sur un grand boulevard, près des théâtres et des restaurants.
Vous vous rendez compte, oui.
Donc en creux, vous avez toute la vie parisienne, tout le beau monde qui se déplace. Et lui, il est en train de crever dans son coin, là, tout seul, abandonné.
Mourir décharné, complètement. Franchement, le tableau est presque difficile à regarder, mais il nous en apprend assez long, finalement, Jacques Jalis, sur le changement de regard que l'on porte sur l'enfance. Aujourd'hui, nous sommes au siècle de l'enfant roi. Ce n'était pas du tout le cas au milieu des années 1880.
Je pense que c'est la grande différence avec le siècle précédent, parce qu'on a, bien sûr des gravures qui nous représentent des pauvres, même si on remonte à Callot au XVIIe, on a des miséreux qui sont figurés, y compris des jeunes enfants. Mais il n'y a pas ce réalisme justement que l'on retrouve au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe, même si l'enfance malheureuse, elle était au moins aussi importante au XVIIe et au XVIIIe qu'au XIXe siècle.
Il y a aussi dans l'exposition ce tableau qui est le membre d'un pendant. C'est un tableau de Bastien Lepage qui s'appelle « Petit cireur de bottes à Londres ». On est en 1882 et on se rend compte que le petit cireur de bottes, en fait, n'est pas seulement un enfant qu'on fait travailler. C'est tout simplement un prostitué, en vérité.
Voilà, oui, oui, oui. On savait fort bien, Dickens l'avait dit, hein, les petits garçons, les petites filles à Londres, eh bien, on les vendait aux touristes. Et donc, Bastien Lepage, qui se retrouve en 1880 à Londres et qui va y séjourner un certain temps, eh bien, se fait aussi leur défenseur à travers quelques tableaux.
Donc ces enfants, et c'est peut-être ce qui les rapprocherait d'une certaine manière des enfants des 16 et 17e siècles dont nous parlions tout à l'heure, conservent quand même un rôle qui est d'habitude celui des adultes. On les voit dans l'armée, on les voit dans le travail, dans le monde du travail, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui travaillent à cette époque, bien entendu. On les voit aussi sur les barricades, dans les périodes révolutionnaires, etc. C'est la figure du Gavroche, ça, d'une certaine manière, Jacques Jalis.
Oui, c'est un peu l'opposé au fond du jeune dauphin du début du XVIIe siècle.
Mais c'est son pendant en quelque sorte.
C'est un peu son pendant. C'est vrai que c'est on peut le présenter de cette manière-là. Il est entraîné par, mais ça c'est Hugo, c'est le Gavroche.
Enfin, oui, bien sûr.
Et
bien
on
sûr.
Est tout à fait dans les journées révolutionnaires parisiennes. C'est quelque chose de tout à fait nouveau quand même dans la peinture, mon avis.
Beaucoup de petits garçons, peut-être un peu moins de petites filles d'une façon générale, sauf lorsqu'on peint de jolies scènes de piano ou de lecture.
Vous avez une scène de couture de Millet,
couture, oui, voilà,
c'est une petite fille, on est quand même dans le monde paysan.
Oui, c'est vrai.
Assez fruste.
Alors, l'enfance va inspirer certains artistes plus particulièrement. Si l'on devait citer quelques artistes, lesquels sont en quelque sorte les peintres de l'enfance pour vous, Dominique Klopstein?
Alors, si vous voulez, il y en a trois à la fin du 19e siècle. Vous me parlez du 19e siècle?
Oui, bien sûr.
À la fin du 19e siècle, il y en a trois qui ont des noms absolument impossibles et qu'on connaît assez mal, qui s'appellent Lobrichon, Truffem et Geoffroy.
Oui.
Et ceux-là ont passé toute leur existence à peindre l'enfance. Ce sont trois peintres républicains et ce sont trois peintres qui, à travers leurs tableaux, marquent les progrès de la société.
Est-ce que l'enfant est utilisé comme une sorte de vecteur d'émotion? Est-ce que c'est ça l'idée?
Non, c'est vraiment des enfants politiques. C'est des enfants pour faire avancer les choses. C'est les enfants qui déboucheront sur les lois de 89, sur l'enfance maltraitée. Voilà, c'est vraiment, il y a une volonté forte et républicaine qui s'affiche.
Est-ce que le... Oui.
De ce point de vue, ils reprennent au fond un peu ce qu'on voit apparaître à partir de 1841, les lois qui régissent le travail des enfants dans les usines et dans les mines, et ils sont un peu les porte-paroles, ils sont les images, les relais au fond du pouvoir politique qui entend désormais protéger les enfants et éviter justement la prostitution, l'exploitation éhontée des enfants qui, à 10 ans, travaillent 12 heures dans des filatures et dans les mines.
Alors, ce qu'il y a d'assez remarquable dans cette exposition, c'est qu'elle n'est pas seulement une exposition, je dirais, sociologique d'un regard porté sur l'enfance à travers la peinture. Elle nous montre aussi en quoi l'enfance a fait évoluer le monde de l'art en tant que tel. Et la fin de l'exposition, ce sont ces peintres contemporains, disons, qui vont emprunter à l'enfance sa spontanéité, ses réflexes, en quelque sorte, à travers un certain nombre de grands noms. Je pense à Picasso, mais il n'est pas le seul.
Non. Non, si vous voulez, on ne peut pas parler d'évolution en histoire de l'art, mais néanmoins, il faut toujours trouver quelque chose d'autre, le dire d'une manière différente. Et à la fin du 19e siècle, on commence à simplifier les formes, à travailler avec des aplats de couleurs, et les artistes se rendent compte que finalement, les enfants font un peu pareil. Et donc, il va y avoir une espèce de rencontre et toute une évolution autour de cette rencontre qui va mener jusqu'au Picasso des années 60. 1900.
Eh oui. Et alors Picasso, bien sûr, lui, se considère comme, comment dire, comme tributaire, comme héritier de cette enfance, de ce regard neuf. Il le dit d'ailleurs, hein, il dit quand j'avais leur âge, il parle des enfants, c'est une déclaration qui date de 1945, je dessinais comme Raphaël, mais il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme eux, à dessiner comme les enfants, justement.
Et alors justement, nous terminons l'exposition sur un immense tableau de Picasso qui représente un artiste âgé et sur ses genoux, il a confié le pinceau à un enfant. Et c'est vraiment, voilà, c'est une espèce de conclusion qu'on a vraiment voulu afficher.
Alors il y a des toiles de Dubuffet, ce ne sont pas des toiles d'ailleurs, ce sont des dessins, enfin comme des gouaches, qu'est-ce que
non,
c'est
non, non,
ce sont
c'est,
des toiles.
Il y a, oui, y a bon. Des peintures, mais alors vous avez aussi des choses plus compliquées.
Oui, c'est compliqué.
Des coupages,
voilà,
collages.
En tout cas des œuvres, on va dire, voilà. Des œuvres de Dubuffet, alors dont on pourrait croire réellement qu'elles sont des œuvres d'enfants. On se croirait là vraiment, vous savez quand dans les écoles maternelles on vous montre les dessins des enfants, ça ressemble beaucoup à ça pour le coup. Hein.
Il y a un des grands tableaux en camaïeu de brun, c'est le dessin du bonhomme que font les enfants
alors,
spontanément.
Si le peintre se met à peindre comme un enfant, quelle est la place qui reste à l'enfant, si je puis dire? On peut se poser la question du point de vue purement artistique, là.
Oui. Alors, voilà, mais est-ce que le dessin d'enfant est un dessin vraiment spontané? C'est la question qu'on va finir par se poser,
voilà.
Dubuffet.
C'est ça. Donc on en vient assez vite à des questions qui sont d'ordre psychanalytique, disons, d'une certaine manière.
Non seulement, mais aussi l'ambiance culturelle. Un enfant voit des images maintenant depuis sa plus tendre enfance. On n'en est plus à l'image d'Épinal unique qui décorait la maison. Donc tout change.
À quel moment, Jacques Gélis, l'enfant devient-il celui que nous connaissons aujourd'hui, l'enfant, nos enfants de notre époque, du début du 21e siècle? À partir de quand se dessine cet enfant-là? C'est-à-dire un enfant qui est le centre de l'attention de la famille et qui décide quasiment de lui-même, de son propre épanouissement, de son propre développement. C'est comme ça que nous considérons plus ou moins les choses aujourd'hui. Ça date de quand, ça, à peu près?
Vous me posez là une question difficile. Parce
oui,
que,
sans doute.
On ne peut pas dire qu'il y ait une date de rupture évidente.
C'est une lente évolution, d'après vous?
C'est une longue évolution.
Pensez pas qu'il y a un basculement avec la Seconde Guerre mondiale, par exemple?
Ah, oui.
Oui.
Oui, mais les prémices apparaissent au 18e, c'est tout à fait évident, mais ça chemine très lentement, et c'est vrai qu'il y a des coups d'accélérateur qui sont donnés de temps à autre, je pense à la guerre de 14 déjà, quand même, qui implique quand même beaucoup les enfants, et ça on le retrouve à travers à travers un certain nombre de gravures, de peintures, c'est tout à fait évident, et la Deuxième Guerre mondiale a encore accéléré cela. Si on élargissait la palette, j'allais dire, à l'ensemble de l'Europe et des pays concernés par la guerre, sans doute aurait-on là quand même une bonne illustration de cette évolution malheureuse.
En tout cas, il me semble, et c'est l'impression que j'ai eue en me promenant dans cette exposition et en me laissant gagner à l'atmosphère de chacune de ces très belles toiles, car ce ne sont quasiment que des chefs-d'œuvre. On peut même dire que ce ne sont que des chefs-d'œuvre, hein, qui sont là exposés sur les six messes du musée Marmottan. J'ai eu le sentiment que d'un enfant très extérieur et très lointain, l'enfant royal, l'enfant sacré, l'enfant angélique aussi, parce qu'on n'a pas parlé des poutilles et des anges, hein, mais qui jouaient un rôle très important dans l'imaginaire artistique du XVIIe ou du XVIIIe siècle, on a avançait vers un enfant de plus en plus réaliste, et on avance tellement vers l'enfant qu'à la fin, on est dans l'enfance elle-même avec ces derniers grands artistes contemporains qui peignent volontairement comme des enfants, si je puis dire. Donc il y a cet effet de zoom qui est très fort lorsqu'on se promène dans l'exposition. Il y a une toile que vous garderiez en particulier si l'on vous demandait d'en commenter une, s'il fallait en choisir une, Jacques Gélis.
Oui, il y en a une qui m'a beaucoup frappé parce que je ne l'avais pas analysée à fond au départ, qui est cette petite mademoiselle de Tours, qui est en fait l'enfant naturel de Louis XIV et de Madame de Montespan, morte à l'âge de 6 ans, et dont on possède justement, et elle figure dans l'exposition, qui se présente sous la forme d'un tableau posthume. Et avec cette fillette qui est avec son chalumeau en train de faire des bulles de savon. Et on sait très bien que la bulle de savon, elle est le symbole de la vie éphémère. Et cette fillette qui est très jolie, très très bien accoutrée avec son petit chien, je dois dire que c'est pour moi un des tableaux les plus emblématiques de l'exposition.
Merci beaucoup à vous deux. L'art et l'enfant, chef-d'œuvre de la peinture française, donc autour de ce thème de l'enfance, c'est au musée Marmottan et l'exposition va durer, je ne sais pas, encore un bon moment, jusqu'au 3 juillet, voilà, 3 juillet prochain. Merci messieurs.
Le cœur de l'histoire se poursuit dans un instant sur Europe 1 et nous resterons dans le monde de l'enfance car Franck Ferrand vous répondra à la question d'Isabelle sur l'origine des poupées.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez, Franck Ferrand, à la question d'Isabelle qui vous demande par mail sur europe1.fr, quelle est l'origine des poupées ?
Alors là, il faut aller très 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 loin. On sort de l'histoire et même de la proto-histoire pour entrer dans la préhistoire. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'une poupée, ça vient de poupa en latin. Hein. C'est la toute petite fille, la poupa. C'est le bébé, si vous voulez. Et alors, on en trouve des poupées partout. Qu'elles aient une dimension symbolique, ce sont souvent des ex-voto, d'ailleurs, notamment, ou des éléments de fixation de croyances, ou bien entendu un rôle ludique, car on a des poupées jouets qui datent de très long. On en trouve en Mésopotamie, on en trouve en Égypte, bien entendu, dès le Moyen Empire, en bois, en ivoire, des poupées qui donc ont plus de 4000 ou 4500 ans. 600 ans avant Jésus-Christ, on fabriquait en Égypte les premières poupées de chiffres, comme nous dirions nous aujourd'hui, en tissu, si vous voulez. Alors on en a beaucoup dans toutes les civilisations à toute époque, mais au Moyen-Âge notamment, elles étaient moulées dans un bloc de terre cuite et elles représentaient des adultes, c'est intéressant, des dames, des cavaliers, etc. Au XVIIe siècle, la poupée devient véritablement un poupon, si je puis dire. Elle se fabrique essentiellement en cire, mais on en trouve aussi en papier mâché, pour ceux qui ont les moyens, en porcelaine. La fabrication industrielle n'arrivera évidemment que vers la fin du XIXe siècle et la poupée, à ce moment-là, se popularise, bien entendu. Alors bon, la plus célèbre, c'est celle des Malheurs de Sophie. Sophie put prendre la plus jolie poupée qu'elle eût jamais vue, écrit la comtesse de Ségur. Les joues étaient roses avec de petites fossettes, les yeux bleus et brillants, le cou, la poitrine, les bras en cire, charmants et potelés. La toilette était très simple, une robe de percale festonnée, une ceinture bleue, des bas de coton et des brodequins noirs en peau vernie. C'est dans la première moitié du XXe siècle que de nouveaux matériaux vont apparaître, comme la celluloïde, bien entendu. Et aujourd'hui, la poupée est un jouet incontournable. Il existe même une fête annuelle de la poupée au Japon, figurez-vous. Ça s'appelle Inamatsuri. Il s'agit sans doute de rendre hommage aux poupées les plus bizarres de la planète.